Voici le culte protestant transmis de l'église de Coligny à Genève, l'officiant étant le pasteur Robert Martin Achard, avec la chorale Saint-Luc sous la direction de Philippe Cordet et à l'orgue François Rabot.
Fait curieux, la mort est rarement le thème central de nos prédications. Oh, sans doute il y a Vendredi Saint, mais l'évocation de l'agonie du Christ est comme absorbée par l'annonce de la résurrection le jour de Pâques qui lui est si proche. Et dans nos cultes, nous parlons du salut ou du tiers-monde, de la prière ou de l'énergie nucléaire, de l'amour ou de la justice que Dieu donne ou qu'il exige. Mais de la mort et de ce qu'elle représente pour nous, il en est finalement peu question. Oh, je sais bien que nos églises se remplissent souvent et parfois seulement à ces occasions pour des services funèbres, et que certains parmi nous passent d'un enterrement à l'autre. Pour bien de nos contemporains qui ne viennent au temple que pour une cérémonie funéraire, l'Église apparaît comme une sorte d'adjuvant des pompes funèbres, dont on n'ose pas encore trop se passer. Fondée sur la vie du Christ, l'Église est ainsi prise au sérieux par certains d'entre nous que pour l'ensevelissement des morts, quelle dérision! Et d'ailleurs, ce que nous entendons au cours de ces services funèbres nous atteint-il vraiment, nous met-il en face d'un message que nous sommes capables de recevoir? Il se peut alors que nous soyons dans un état second, tant la douleur est grande, tant la souffrance est insupportable quand la mort nous frappe à travers un être cher. Il se peut aussi que nous soyons présents par convenance, par obligation professionnelle. Nous sommes venus témoigner notre sympathie à un camarade de bureau, à un membre de notre parti, à quelques collègues ou associés, voire adversaires, et nous attendons polis mais distraits que le pasteur ait fini de parler pour aller défiler devant la famille en deuil et repartir au plus vite. Sommes-nous vraiment prêts alors à nous interroger sur la mort et sur notre mort? Ce n'est pas en présence immédiate de la mort qu'il nous faut y réfléchir, car il est souvent trop tard, mais avant, par exemple lors d'un dimanche ordinaire, comme aujourd'hui. Et c'est la raison de ces trois prédications, au cours desquelles nous envisagerons certains aspects, non pas tous, c'est impossible, certains aspects de la mort, en nous appuyant sur trois textes de l'Ancien Testament, en écoutant ainsi trois croyants du peuple de Dieu auxquels nous appartenons avec le Christ, trois croyants nous faire part de leurs angoisses, de leurs questions et de leurs certitudes. Le psaume 88, la fin du chapitre 3 de l'Ecclésiaste et le psaume 16. Nous allons lire d'abord le psaume 88. Et en contrepoint, une page de l'Évangile, Marc 15, psaume 88, dans une traduction nouvelle. Seigneur mon Dieu, je crie tout le jour et la nuit devant toi, je supplie que ma prière parvienne jusqu'à toi, prête l'oreille à mes appels. Mon âme est rassasiée de maux et ma vie sombre dans le néant. On me voit déjà descendre au tombeau et mes forces m'abandonnent. Ma demeure est parmi les morts, avec leur corps allongé dans la tombe. parmi ceux que tu oublies, ceux que ta main a retranchés. Tu m'as plongé au fond d'un gouffre, dans les ténèbres et les abîmes, et sur moi s'est appesantie ta colère, elle m'a comme un flot recouvert. Tu as chassé mes intimes, je suis pour eux un objet d'horreur. Mes yeux se consument dans la misère. Tout le jour, Seigneur, je t'appelle, vers toi je tends les mains. Fais-tu pour les morts tes prodiges? Les ombres se lèvent-elles pour te louer? Ton amour est-il célébré dans la tombe et ta fidélité au royaume des morts? Tes merveilles sont-elles connues dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, Seigneur, je t'implore, dans le matin, ma prière monte vers toi. Pourquoi, Seigneur, ainsi me rejeter? Pourquoi me dérober ton visage? Tes flots m'assaillent sans répit, de tous les côtés je suis menacé. Tu as séparé de moi mes amis, mes compagnons. Ce qui me reste, c'est la nuit. Amen.
Les soldats conduisent Jésus à l'intérieur de la cour, dans le prétoire, et convoquent la cohorte entière. Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, il la place sur son front et le salue en ces termes. « Salut, roi des Juifs !» Il lui frappe la tête avec un roseau, puis lui crache dessus et, ployant le genou, lui rend hommage. Quand ils se sont ainsi moqués de lui, ils lui ôtent le manteau de pourpre, lui remettent ses vêtements et l'emmènent dehors pour le crucifier. Ils contraignent un passant qui revenait des champs. Un certain Simon de Cyrène a porté la croix et amène Jésus au lieu appelé Golgotha. Il lui donne du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prend pas, et il le crucifie. Puis il se partage ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il est à peu près 9 heures du matin quand il le crucifie. L'inscription portant le motif de sa condamnation est ainsi rédigée. Le roi des Juifs. 2 brigands sont crucifiés avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultent, hochent la tête. « Hé, disent-ils, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, « sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les grands prêtres raillent entre eux, ainsi que les docteurs de la loi. « Il en a sauvé d'autres, disent-ils, et ne peut pas se sauver lui-même. Le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et croyions. » Ceux qui sont crucifiés avec lui l'insultent. À l'heure de midi, et jusqu'à 3 heures, les ténèbres s'étendent sur la terre entière. Alors Jésus s'écrie d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns des assistants ayant entendu disent, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un court imbibé de vinaigre une éponge, et l'ayant fixée à l'extrémité d'un roseau, la lui tend à boire. « Attendez, dit-il, voyons si Élie vient de descendre de là. » Alors, Jésus, jetant un grand cri, expire. Le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas, et le centurion qui se tient là devant lui, le voyant expirer de la sorte, dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Plusieurs femmes regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, ainsi que Salomé. Amen.
L'homme qui parle dans ce psaume 88, c'est la mort toute proche. Et il en appelle à Dieu et Dieu ne répond pas. Bien plus, Dieu lui apparaît comme celui qui l'enferme dans une situation sans issue et qui se refuse obstinément à l'en délivrer. Il n'en crie pas moins vers Dieu. Jour et nuit, sa plainte s'élève vers lui. Mais il continue à se heurter au silence de Dieu, de son Dieu pourtant, qui semble déjà l'oublier dans le monde des morts. À trois reprises dans ce psaume, il évoque sa prière, alors que Dieu s'acharne contre lui, car il veut vivre, et seul Dieu peut lui donner la vie, et avec elle tout ce qu'elle promet. Bouleversant appel, jaillit d'un cœur qui croit, d'un croyant aux abois et qui ne désarme pas. La nuit l'enveloppe de toutes parts et il ne cesse de tendre les mains là où il pense, là où il sait que se trouve la lumière. Ce psalmiste nous fait penser à Job, qui vit le même drame et dont la souffrance est tout aussi intolérable. Job, dont plusieurs d'entre nous méditent le message en ce temps, à l'aide de paroles de ce jour. Et cette prière, ce psaume, nous est maintenant confiée pour que nous sachions qu'elle existe, pour que nous la disions à l'heure où le mal nous presse, où la détresse nous étouffe, où nous ne savons plus comment prier. Elle est confiée à l'Église tout entière pour que l'Église la prie au nom de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus s'adresser à un Dieu dont l'attitude à leur égard leur paraît incompréhensible et même intolérable. Elle existe cette prière pour les désespérés qui remplissent notre terre et qui se voient comme le psalmiste ballotté d'une vague à l'autre, emporté d'une tourmente à l'autre, déjà comme retranché des vivants, qui sentent leurs forces vaciller, leurs compagnons s'éloigner, leurs amis trahir, parce qu'ils se heurtent au mystère de la mort et du mal. Cette prière est là pour nous et pour les autres. Le psalmiste nous dit ici ce que le peuple de Dieu, auquel nous appartenons, pense de la mort. Ce croyant la redoute, comme nous tous, et plus encore, il la déteste. Et il la refuse comme une réalité insupportable avec laquelle on ne peut transiger. La mort, c'est l'ennemi. Comme il est loin, cet homme de l'Ancien Testament, de tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, cherchent à édulcorer la mort, à la flatter, à l'amadouer, à l'aide notamment de tous ces rites funéraires que l'homme dans son angoisse, en notre temps comme il y a des milliers d'années, ne cesse d'inventer. Comme il est loin, ce croyant d'Israël, de tous ceux qui farcent de la mort pour l'embellir, qui lui prêtent un visage aimable et tentent de l'escamoter comme s'il était possible d'en venir à bout par nos subterfuges. Nous avons maquillé la mort, écrit un auteur catholique récent, comme les Américains maquillent leur mort et leur font jouer la mascarade. Jésus-Christ, lui, a crié d'effroi devant la mort. Et nous, nous faisons comme les disciples, nous cherchons où dormir. Et il ajoute cette remarque parfaitement juste, la mort est bien plus absurde pour nous croyants que pour les incroyants. Oui, ce psalmiste, en vrai témoin de l'Ancien Testament, ose dévisager la mort et porter sur elle un jugement saint et lucide. ils la voient telle qu'elle est, et au lieu de flirter avec elle en s'en accommodant, ils la dénoncent comme un mal avec lequel on ne peut pas pactiser. La mort n'est pas compatible avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, qui partout où il est et agit fait triompher la vie. Alors que là où la mort s'infiltre, le désordre et la nuit, le silence et le non-sens s'imposent à nous. L'Ancien Testament ne peut pas chanter, comme nous venons de l'entendre, « Heureux les morts !» Car il n'y a pas de place pour la mort dans l'œuvre créatrice de Dieu. Qu'est-ce qui donne à la mort ce caractère odieux ? Elle signifie avant tout, répond la Bible, avec le réalisme qui la caractérise, rupture, séparation, excommunication. Tu as chassé mes intimes. Tu as séparé de moi mes compagnons. Et ce qui me reste, c'est la nuit, se plaint le psalmiste. Et il ajoute ses interrogations dont il connaît bien la réponse. Fais-tu pour les morts des prodiges? Ton amour est-il célébré au royaume de la mort? Et ta justice au pays de l'oubli? Évidemment non. La mort éloigne. La mort isole, comme le lépreux qu'on met à l'écart. Elle rend impossible toute communion. Or, que sommes-nous, que faisons-nous si nous sommes privés de communion? On ne communique pas dans le monde des morts, personne n'y parle, on y chuchoterait plutôt. Entre Dieu et le défunt, les ponts sont coupés, comme ils sont coupés entre lui et ses proches. C'est cela, ces relations brisées, dit avec sa lucidité habituelle la tradition biblique, c'est cela qui est intolérable dans la mort. Et parmi nous, qui lui donnerait tort? Les morts sont ailleurs et notre vie se poursuit malgré nous sans eux. Mais l'Écriture, à travers ce psaume et à travers d'autres pages, nous révèle encore autre chose. Elle dévoile le dynamisme de la mort, son appétit, sa voracité. La mort n'attend pas ses victimes, elle va les chercher, elle a hâte de s'en emparer. Elle s'introduit constamment dans la création de Dieu et s'en prend à ses créatures. Nous sommes l'enjeu d'un combat sans merci entre elle et Dieu. Elle se déchaîne contre l'homme, comme les flots en colère dont parle le psalmiste, et il n'a de cesse qu'il ne tombe en son pouvoir. La mort, pour l'Ancien Testament, ne commence pas au moment où le cœur, où le cerveau cesse de fonctionner. Elle est déjà présente et active et redoutable dans le malheur des hommes, dans la faute des uns, dans la détresse des autres. La mort vient habiter des existences privées de lumière et de bonheur, des existences livrées au mensonge et à l'injustice. Elle prend possession du malade abandonné, de la veuve exploitée, de l'homme de couleur méprisé. Elle s'installe chez l'individu humilié, celui qui est livré au bourreau et dont les cris ne parviennent nulle part, comme ils s'en passent aujourd'hui, en cet instant. La mort vient chez celui que personne n'écoute, et ils sont légions. À qui l'on n'adresse pas la parole, ou plutôt qui n'ont pas le droit de parler, l'homme privé de dialogue, qui ne peut que comme les morts, chuchoter, grommeler en lui-même, parce que personne l'écoute, parce que personne ne fait attention à lui, l'homme de la non-communication, l'homme condamné par les autres à ne jamais pouvoir entrer en contact avec les autres. l'homme écarté, l'homme refoulé, parfois au nom de l'intérêt national ou économique, au nom du progrès et du parti, au nom même de l'Église. Toute cette masse de malheureux dont la vie n'est pas la vie telle que Dieu la veut. Mais la mort s'approche aussi de ceux qui ne pensent qu'à sauver leur peau, qu'à jouir de leurs privilèges, qu'à profiter de la vie, qui n'existe que pour eux et pour leur ventre, qui se croient vivants, bien vivants, bon vivants, et qui en réalité sont déjà au service de la mort. Elle rôde autour de nous, cette mort, dont l'empire sur l'humanité est bien plus grand que nous l'imaginons. Une dernière remarque. Les psalmistes prennent la mort au sérieux et ils nous aident à la prendre à notre tour au sérieux. Et donc, du même coup, à pressentir ce que la mort du Christ a signifié pour lui. Vendredi Saint n'a pas été qu'un mauvais moment à passer, comme on le laisse croire parfois. Le Christ a connu la nuit, la descente dans la nuit, évoqué au psaume 88. Il a connu l'abandon de ses amis. Il a connu le silence de Dieu. Ses appels n'ont pas reçu de réponse. Pis encore, il lui a semblé que, comme le dit ce psaume, Dieu, son Père, se déchaînait contre lui, s'acharnait sur lui, sans lui laisser un instant de répit. Jésus donne un sens, tout son sens, à la prière du psalmiste, et il peut en redire chacune des paroles, et il faudrait relire plus tard chez nous chacune de ces paroles en les mettant dans la bouche du Christ. Jésus fait sienne la détresse de cet homme. Il a affronté ce vide. Il a vécu toute l'horreur de la mort. Mais découvrir le sérieux de la mort du Christ nous fait prendre conscience que désormais notre mort ne peut pas être tout à fait celle du psalmiste et moins encore celle du Fils de Dieu. Car dans la mort, nous ne nous retrouvons pas seuls, mais avec le Christ. Nous ne sommes pas complètement abandonnés. Mais nous entrons dans une réalité où Christ nous y a précédés, où Christ nous attend, au sein de laquelle, en quelque sorte, il nous accompagne. Nous mourrons, oui, avec tout ce que cela signifie, mais nous mourrons avec Christ et en sa compagnie. Et dans la mort, nous ne cessons pas d'être à lui. Il nous entoure de sa présence et de son amitié. Jésus-Christ est entré en agonie pour que nos agonies ne puissent plus jamais ressembler à celles qu'évoque le psalmiste. C'est là un grand mystère, le cœur de l'Évangile, devant lequel il faut se taire pour adorer, un mystère qui donne un sens nouveau à nos morts, et aussi à nos vies. Amen.
Oh. Les musulmans croient que le Coran est descendu du ciel, écrit et composé par Dieu lui-même dans ses moindres détails. Nous chrétiens, nous ne croyons pas que la Bible ou l'Écriture sainte a été dictée par Dieu, livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset, mais qu'elle est l'œuvre de croyants que Dieu a inspirés et à travers lesquels il nous parle. Dieu nous rejoint vraiment dans l'Écriture, mais il nous rejoint en se servant d'hommes et de femmes répartis dans le temps et dans l'espace, différents de tempérament et de culture, qui, là où ils sont, comme ils sont, avec les moyens qui sont les leurs, dans les circonstances précises qu'ils connaissent, rendent compte de Dieu, de son projet pour les hommes, de son impatience et de sa patience, de sa fidélité et de son acharnement à intervenir pour nous. Nous regardons la Bible comme les archives du peuple de Dieu, longuement accumulées au cours des siècles, dont il faut dépouiller chaque pièce et prêter attention à chaque document. C'est ainsi que la semaine dernière, nous avons relu le psaume 88 et qu'aujourd'hui, nous laissons la parole à l'Ecclésiaste. Il s'agit d'un homme au nom curieux, dont les paroles ne le sont pas moins. Probablement un sage qui a longuement regardé vivre les hommes de son temps, qui fait le compte de leurs travaux et de leurs peines et en mesure les fruits, un croyant frappé par la vanité des efforts humains, tout cela est vent et poursuite du vent, aime-t-il à répéter. Et qui s'attaque du même coup à l'optimisme assuré de ses collègues et en fait le procès. Il démolit les illusions dans lesquelles l'homme se complaît. C'est là son rôle, sa mission. Il n'a par contre peut-être pas grand-chose à proposer à la place de ce qu'il détruit. Il vit probablement à une époque où un monde est en train de disparaître, et avec lui sa civilisation, ses valeurs, et où ce qui va le remplacer n'apparaît pas encore. Quelque chose se meurt, ou plus exactement, ce dont les hommes ont vécu jusqu'ici se meurt. L'ordre qu'ils ont voulu instaurer, l'organisation qu'ils ont su construire, le sens qu'ils ont donné à l'existence humaine s'effondre. Voilà l'avertissement que l'Ecclésiaste adresse à ses contemporains et qui explique ses propos. Voilà le message qu'il nous transmet de la part de Dieu et qu'il convient de prendre au sérieux. Nous lirons quelques fragments de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au chapitre 9, et en contrepoint, un passage de l'Épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Ecclésiaste chapitre 3. J'ai constaté sous le soleil que là où devait être la justice, là était le crime. Que là où devait être le droit, là était le crime. Et je me suis dit, Dieu seul jugera le juste et le criminel, car il y a un temps pour toute chose et un endroit pour toute œuvre. Je me suis dit à propos des humains que Dieu les éclaire assez pour qu'ils voient d'eux-mêmes qu'ils ne sont en eux-mêmes que des bêtes. Car le sort des humains et le sort des bêtes, c'est le même sort. La mort des uns, c'est la mort des autres. C'est le même souffle pour tous. La supériorité de l'homme sur la bête n'existe pas, car tous sont fragilité. Tous vont au même endroit. Tous sont venus de la poussière et tous retournent à la poussière. Va savoir si le souffle des humains monte vers le haut et si le souffle des bêtes descend pour s'enterrer en bas. J'ai constaté qu'il n'y avait rien de meilleur pour l'homme que de prendre plaisir à ce qu'il a fait. C'est là sa part. Et de nouveau, j'ai constaté toutes les oppressions commises sous le soleil. Voici les opprimés pleurent et personne ne les console, car la force est du côté des oppresseurs. Oui, personne ne les console. Alors j'ai félicité d'être mort, les morts d'être déjà morts, plus que les vivants d'être encore vivants. Chapitre 9. À tout cela, j'ai prêté attention et en dernière analyse, les justes, les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et même à l'amour et même à la haine, l'homme ne comprend rien, tout cela le précède. Tout ressemble à tout et il y a un sort unique pour le juste et pour l'infidèle, pour le pur et pour l'impur, pour celui qui fait des sacrifices et pour celui qui ne sacrifie rien. Voilà un mal pour tout ce qui se fait sous le soleil, un sort unique pour tous. Aussi le cœur des hommes est rempli de malice, et pendant leur vie, leur cœur est fou, et ensuite, chez les morts. À tous les vivants, une certitude. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'auront jamais de rétribution. Même leur mémoire est oubliée. Même leurs amours, même leur haine, même leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin, car Dieu déjà a aimé tes actions. Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta fragile vie, ceux que Dieu t'a donnés sous le soleil. Oui, tous ces jours sont fragiles, c'est cela ta part, dans ta vie et dans la peine que tu endures sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire quand tu en as encore la force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le monde des morts où tu vas.
Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, quelques extraits des chapitres 4 et 5. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, vivant ou mort, nous vivions alors unis avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les dons de prophétie. Examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui encore agira. Amen.
L'auteur du psaume 88 se débat contre son sort. Il refuse la mort et son environnement. Il appelle Dieu à l'aide. L'Ecclésiaste, lui, qui est aussi un croyant d'Israël, ne tend nullement les mains vers son Dieu. Il se contente d'observer. Il note ce qu'il voit. Il compte les coups, il marque les points. Or, que constate-t-il? Que partout règne le désordre. C'est le chaos. La justice est bafouée. La sagesse et la science ne mènent à rien. La richesse et la gloire sont illusoires. L'homme est le jouet de forces incontrôlables, il ne connaît pas son heure et ne peut rien contre son destin. Vanité des vanités, tout est vanité, tout est vent et poursuite du vent. Que reste-t-il à l'être humain de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel est le sens de son labeur? Où conduisent ses travaux, ses amours, ses espoirs? À quoi sert-il de vivre? J'ai constaté, écrit-il, que là où devait être la justice, là était le crime. Voici les opprimés pleurent et personne ne les console, car la force est du côté des oppresseurs. Même à l'amour, même à la haine, l'homme ne comprend rien. Et tout le succès d'une œuvre, ce n'est que jalousie de l'un envers l'autre. Et son livre entier continue sur ce ton. Faites à noter cet homme, sans doute âgé, qui a beaucoup vécu, beaucoup réfléchi, qui a cherché une raison de vivre dans le plaisir, ou dans la science, ou dans la puissance, et en a mesuré l'inanité. Cet homme pourrait bien être un des maîtres à penser, s'il le connaissait, de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Que le spectacle du monde écœure, et qui ne peuvent admettre le désordre que nous y avons laissé s'installer. Ils se rejoignent en effet, l'Ecclésiaste et eux, dans le verdict négatif qu'ils prononcent sur leur temps respectif. Plus lucide que ne l'imagine une société de consommation qui aime à se payer d'artifices et de mirages, ces jeunes observent à leur tour le comportement de leurs aînés, s'indignent des misères et des scandales qu'il entraîne, s'interroge sur la valeur d'une existence vouée à la recherche forcenée du profit ou livrée au despotisme d'un hasard frappant à tort et à travers. Et ils font sienne les paroles du chanteur « À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert tout ça ?» Pour le sage d'Israël, la mort ne permet aucun espoir. Elle ne répare rien de ce qui ne va pas ici-bas. Elle ne résout aucune des questions que le spectacle du monde éveille en nous. La mort ne débouche sur rien, proclame l'Ecclésiaste. Elle n'est pas un passage vers une réalité supérieure. Loin de là, ni une ascension vers le ciel, et l'Ecclésiaste de s'appesantir. Les morts ne savent rien et leur souvenir est oublié. Leurs amours, leur haine, leur jalousie, bref, ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont vécu, a disparu avec eux. Il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le monde des morts où tu vas. Et l'Ecclésiaste nous ramène à notre condition terrestre et nous y enferme. Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière, tout retourne à la poussière. Je crois que pour comprendre sa pensée, Il faut savoir qu'ici l'Ecclésiaste se fait polémiste. Il nie l'au-delà et tout ce que l'être humain, dans sa peur du vide, essaye d'imaginer à son sujet. Il rejette toute spéculation sur le sort de l'homme après la mort. Il condamne les théories en vogue sur la soi-disant supériorité de l'homme sur l'animal. Et contre les idées de son temps, et peut-être d'une autre, il ose écrire « Le sort des humains, le sort des bêtes, c'est le même sort. La mort des uns, c'est la mort des autres, ils ont tous le même souffle. La supériorité de l'homme est nulle, car tout est vanité. » Et avec une ironie mordante, il fait mine de s'interroger. « Va savoir si le souffle des humains monte vers le haut, alors que celui des bêtes descend vers la terre, comme de bons esprits le prétendent. » Il s'attaque ici probablement à une doctrine popularisée dans le monde hellénistique qui est le sien, au sujet de laquelle existent bien des malentendus et dont on a fait à tort un des articles de foi de l'Église, je veux dire l'immortalité de l'âme. Mais où donc dans l'Écriture est-il question de cette fameuse immortalité qui nous serait innée? L'Écriture condamne plutôt, comme ici, toute spéculation sur ce quelque chose qui, en nous, serait doué d'éternité et nous invite à apprendre et à réapprendre que notre sort présent et notre sort futur dépendent uniquement du souffle que Dieu nous prête. L'homme n'aime pas qu'on lui rappelle ses limites. Il n'apprécie nullement qu'on lui dise, comme le fait l'Ecclésiaste avec insistance, avec lourdeur peut-être, son caractère terrestre, terreux. Il préfère se parer de quelque étincelle divine et il aime étaler sa supériorité sur les autres créatures, notamment sur le monde animal. C'est une vieille histoire que Pascal a magnifiquement dénoncée, l'histoire de l'homme qui veut faire l'ange et qui finit par se vautrer comme la truie dans ses immondices. Il faut se méfier, nous avertit l'Ecclésiaste, de ces élans mystiques d'apparence si noble, mais qui en fait enseignent le mépris de la terre et de ses réalités. Il faut se méfier de ces spiritualités à la fois scientifiques ou prétentieusement scientifiques et religieuses qui pensent tout savoir sur l'au-delà et qui ne servent qu'à nous détourner de nos devoirs les plus immédiats envers nos contemporains. Il faut se méfier d'un certain idéalisme qui n'exprime après tout que notre peur de voir la vie telle qu'elle est et d'avoir à l'assumer. Je redoute les belles âmes. Il est vrai que le bilan de l'Ecclésiaste n'est guère encourageant. Reprenant un vieux dicton, il écrit un chien vivant Et le chien n'est pas particulièrement un être honorable au Proche-Orient. Il écrit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort », ce qui est une façon de dire que la vie est finalement tout de même préférable à la mort. Pourquoi donc? Parce que selon lui, les morts ne savent rien, alors que les vivants savent. Ils savent qu'ils mourront. Cette remarque sarcastique ne nous suffit pas, bien sûr. Et nous avons raison de dire que l'Évangile a plus et a mieux à proposer que le vieux sage d'Israël. Et il est tentant d'ailleurs de combler cette espèce de vide que l'Ecclésiaste creuse devant nous par la proclamation de la victoire du Christ sur la mort. Tant de prédicateurs l'ont déjà fait, opposant le « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » de l'Ecclésiaste à « je vous annonce une bonne nouvelle de Noël » ou à l'affirmation de Paul « le monde ancien est passé, une réalité nouvelle est là avec le Christ ». Cela est parfaitement justifié, à condition que nous ne présentions pas le message chrétien comme ce qui va mettre fin d'un seul coup à nos malheurs et à nos angoisses, et comme si la peine des hommes et l'échec de notre civilisation s'étaient miraculeusement évanouis au lendemain de Pâques. L'Évangile n'est pas une potion magique ou une sorte d'aspirine pour nos migraines petites, migraines spirituelles petites ou grandes. L'Évangile prend au sérieux le verdict de l'Ecclésiaste sur le monde et n'a rien de commun avec la prédication de certains évangélistes qui parlent de Jésus-Christ comme s'il vendait un produit de lessive ou une pâte dentifrice. Utilisez Jésus-Christ et tout ira bien dans votre vie. Au lieu d'opposer l'Ecclésiaste au message du Nouveau Testament, comme il est aisé de le faire, écoutons-le encore un moment. Il nous apprend en effet trois choses, la lucidité, la reconnaissance et le courage. L'Ecclésiaste nous invite d'abord à nous voir tels que nous sommes, dans nos limites, dans notre finitude. C'est là le commencement de la sagesse et du salut. Il dénonce à merveille nos enflures et nos suffisances, en nous rappelant notre condition terrestre non pour nous humilier, mais pour nous libérer. J'aime cette rigueur et cette clairvoyance. Ensuite, l'Ecclésiaste nous engage, dans un monde où bien des choses nous échappent, à profiter des heures heureuses. On l'a accusé d'épicurisme. Son mot d'ordre serait « mangeons et buvons car demain nous mourrons » et il ne penserait qu'à jouir d'un bonheur grossier et fugitif. Je vois plutôt en lui de la reconnaissance. Il sait qu'il y a des joies dans la vie et que ces joies viennent de Dieu. On peut donc se réjouir au lieu de s'aigrir. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de prendre plaisir à ce qu'il fait, écrit-il. Mange ton pain avec joie, profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta fragile existence. Bref, quand le bonheur est là, ne fais pas la petite bouche. Saisis-le, ce bonheur, et fais-le rayonner autour de toi en le partageant avec autrui. Enfin, l'Ecclésiaste m'apparaît comme un homme courageux qui nous enseigne le courage. Courage de poser des questions vraies, d'aller jusqu'au bout de ses interrogations. Courage de voir la vie sous le soleil telle qu'elle est et de l'assumer. L'Ecclésiaste ne nous invite pas à la résignation, comme on le croit parfois. Il ose prendre en charge son existence. Son diagnostic est sévère, mais il ne sombre pas dans le désespoir. Il ne démissionne nullement. Son attitude me semble devoir être décrite par ces mots. Oui, c'est ainsi. Et cependant. un texte paru récemment d'une croyante roumaine exilée, Angela Gelbert, me semble dire aujourd'hui, avec les mots d'Angela Gelbert, la même chose quand elle écrit ce poème dont je vous lis quelques fragments. En dépit du désespoir, espérez. En dépit de la haine, aimez. En dépit de l'infidélité, croire. En dépit des ténèbres, croire à la lumière. En dépit du lait, croire à la beauté. En dépit de la souffrance, croire à la joie. En dépit du chaos, croire à l'harmonie. En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit de la mort, croire à la vie. En dépit du temps, croire à l'éternité. En dépit du fini, croire à l'infini. En dépit de soi, croire à l'autre. En dépit de la folie humaine, croire à la sagesse divine. En dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Ce dimanche se termine un cycle de prédications consacré à la mort et aux questions qu'elle pose aux croyants de l'Ancien Testament. Je dis bien un cycle de prédications se clôt et non pas les problèmes que soulève la mort parmi nous. Nous n'en finissons pas de nous interroger à son sujet. Et l'Écriture sainte, loin de nous en empêcher, nous y invite à y réfléchir et à en parler entre nous. La mort n'est pas ou ne devrait pas être pour nous un sujet tabou. Il faudrait arriver à en parler avec simplicité, à dire à autrui nos angoisses et nos espoirs, à les exprimer au lieu de les garder pour nous-mêmes. Anxiété devant le vide que représente cet inconnu qu'est la mort et devant les souffrances qui souvent la précèdent et l'accompagnent. Déchirement devant les séparations, les ruptures qu'elle entraîne. Certitude que donne l'Écriture et sa familiarité qui fonde notre courage et notre consolation. Il ne faut taire ni les uns ni les autres. Il n'y a pas à se vanter devant la mort. Il n'y a pas davantage à capituler devant elle. Il faut plutôt la regarder comme l'Évangile nous permet de la considérer dans sa réalité, mais aussi dans son dépassement à cause du Christ. La résurrection du Christ nous ouvre en effet des perspectives nouvelles. Comme l'a bien compris, et ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, un groupe de théologiens qui, travaillant pendant toute une session sur le thème « Le mystère de la mort et sa célébration », concluait son étude en affirmant que la première chose à dire à ce sujet était de rappeler que Dieu avait retiré de la mort son Fils Jésus-Christ. Volontairement, je m'en suis tenu ces dimanches au triple témoignage des croyants d'Israël, parce que nous avons tendance, et bien à tort, à les négliger. Et j'espère vous en avoir laissé entendre la profondeur, le réalisme, la vérité. Mais notre réflexion doit se poursuivre et s'étendre. Des questions nouvelles surgissent. Par exemple, une auditrice se fait le porte-parole des gens âgés, à bout, qu'on maintient de force en vie, et elle écrit « On parle beaucoup du droit à la vie, il n'y a pas de droit à la mort. » Et s'interroge sur cette absence. Nous lisons aujourd'hui le psaume 16. Une prière qui ne rappelle guère le psaume 88 et pas davantage l'Ecclésiaste. Un psaume plein de sérénité qui contraste avec les appels angoissés du premier et les remarques insidieuses du second. Mais qu'on n'aille pas s'imaginer que ce psaume 16 sert de conclusion finale et heureuse, une sorte de happy end à nos prédications. Il ne gomme nullement les déclarations que nous avons examinées jusqu'ici. Et il n'a pas pour but de relativiser les vraies questions posées par d'autres croyants et finalement de les écarter. Non, la méditation du psaume 16 ne cherche pas à nous tranquilliser à bon compte et à nous laisser croire que pour un croyant, pour un chrétien, le problème de la mort est facilement résolu. La lecture commentée de ce dimanche cherche avant tout à écouter un autre témoin du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, nous rendre compte de sa vie avec Dieu. Lecture du psaume 16 et en contrepoint de quelques versets du chapitre 8 de l'épître que Paul a écrite aux chrétiens de Rome, il y a bientôt 2000 ans. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, tu es mon secours. J'ai dit, toi, mon Seigneur, tu es tout mon bonheur. Les idoles se multiplient, on se jette à leur suite. Je n'aurai point de part à leur culte. Jamais leurs noms ne seront sur mes lèvres. Seigneur, tu es ma part d'héritage et ma coupe. En tes mains se trouve mon lot. Oui, pour moi, le sort a été favorable, magnifique et mon héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Jusque tard dans la nuit, la voix de mon cœur m'avertit. J'ai toujours le Seigneur devant mes yeux, il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Mon cœur est heureux et je crie de joie. Mon corps lui-même est en sécurité, car tu n'abandonneras pas ma vie aux ténèbres, ton serviteur ne verra pas la corruption. Tu m'enseigneras le chemin de la vie, que de joie en goûte en ta présence, que de délices à tes côtés, et cela pour toujours. Amen.
Lecture de l'Épître de saint Paul aux Romains, au chapitre 8. Nous ne savons pas prier comme il faut. Aussi, l'Esprit nous vient-il en aide de notre faiblesse. D'autre part, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnera-t-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, lui qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.
Le psaume 16 que nous avons relu tout à l'heure est une sorte de confession de foi personnelle, intime. Ni une plainte, ni un cri, mais un hymne où s'exprime à la fois la sérénité et la reconnaissance d'un homme. Un croyant parle ici, il proclame ce qui lui tient à cœur, il ose dire ce qu'il croit, ou mieux, en qui il croit. Il révèle la source de sa joie et de sa paix. Il se sait entre les mains de Dieu. Il lui doit tout. Il attend tout de lui. Et il trouve en lui son bonheur le plus profond. Toi seul, écrit-il, fais mon bonheur au Seigneur. C'est toi ma part. Et tu tiens en main mon sort. Le Seigneur est là, devant moi, pour toujours. Il est à mes côtés. C'est pourquoi je ne chancelle pas. Mon cœur est heureux. Ma chair même repose en sécurité. Tu me fais connaître la route qui mène à la vie. Que de joie on goûte en ta présence, ô Seigneur, toi qui es tout mon bonheur. Et pourtant, cet homme vit en un temps difficile. En un temps difficile que sa foi n'empêche pas, bien au contraire, de prendre pour ce qu'il est. Il le voit avec cette lucidité que nous reconnaissons à l'homme de la Bible, cette clairvoyance que nous avons déjà constatée chez l'Ecclésiaste, comme auprès de l'auteur du psaume 88. Temps difficile. Temps d'idolâtrie. De pratiques religieuses douteuses, d'activités cultuelles frelatées, non pas d'athéisme, mais de débordements spirituels, où se multiplient les sectes avec leurs vedettes, ce besoin de vedettes, où les foules recherchent avec avidité le sensationnel et le merveilleux, où la religiosité prospère et la foi faiblit, tant où chacun cherche à se fabriquer un Dieu à sa convenance qui flatte sa vanité et ses instincts, et s'éloigne du même coup du Dieu des Pères, et ne prend au sérieux ni ses promesses, ni ses exigences. Tandis qu'autour de lui, on renie, ou tout simplement on se dérobe, ce croyant proteste de sa foi. Il est à cet égard un vrai protestant. Il sait ce que Dieu, son Dieu, représente pour lui et le sens qu'il donne à sa vie. Les idoles se multiplient, on se jette à leur suite, mais je n'aurai pas part à leur culte et jamais leurs noms ne seront sur mes lèvres. Il faut un courage certain pour aller ainsi à contre-courant. Mais ce croyant reste une créature humaine. Il est conscient de ses limites, il mesure sa fragilité, il sait le poids des autres, la séduction des modes, l'attraction des religiosités nouvelles et des rites adaptés au goût du jour. Son Dieu est fort, mais lui se sent faible, frêle, vulnérable. Sa foi n'en fait nullement un fanfaron. Et c'est pourquoi, à l'image du Père qui fait appel à Jésus pour sauver son Fils et qui s'écrie dans un même souffle « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », son premier geste est de faire appel à Dieu. Il commence sa confession par une prière « Garde-moi, ô Dieu ». Car je fais de toi mon refuge, veille sur moi, je me blottis en toi. Ma force, c'est toi qui me la communique. Ma foi, elle trouve sa fermeté en toi. Mon assurance vient de toi. Voilà la vraie manière de confesser sa foi. D'un même mouvement, implorer la présence de Dieu et lui dire sa reconnaissance. Car la foi authentique et réaliste, elle connaît l'homme et le monde, la faiblesse du premier et les forces mauvaises qui sont à l'œuvre dans le second. Elle ne spécule ni ne rêve. Elle prie Dieu et compte sur lui. Le psalmiste peut exprimer sa foi ici et maintenant, parce qu'une longue familiarité le lie à Dieu. Il croit aujourd'hui parce que depuis longtemps il fréquente Dieu. Les images qu'il utilise dans sa prière et qui nous sont un peu étrangères, empruntées pour la plupart à la vie cultuelle du temple et aux traditions religieuses de son peuple, ces images en témoignent. Il y a des jours que Dieu et lui marchent de concert. Depuis des mois, des années, une intimité profonde l'unit à son Dieu. Il a vécu, il vit de Dieu, en Dieu, par Dieu. C'est ce qu'il veut dire quand il écrit « Seigneur, tu es ma part d'héritage. En tes mains se trouve mon lot. Nous partageons la même coupe. Mon bien, c'est toi, toi-même, ta parole, ton regard posé sur moi, ta main qui me tient. Ils sont ensemble, Dieu et lui. Ils vont ensemble. Et le psalmiste est comblé par cette présence. Enraciné dans le passé, son passé et le passé de ses ancêtres. Attaché fermement à une tradition qui lui vient de ses pères, et non flottant, incertain, victime désignée de toutes les propagandes, se voulant toujours à la page, se voulant indépendant, et en fait manipulé par n'importe qui, comme tant d'hommes aujourd'hui qui se croient libres, parce qu'ils rejettent ce que leurs pères ont cru et respecté, alors qu'en réalité ils ne font que suivre les modes du jour et sont les derniers à s'en rendre compte. Ce croyant pour qui le passé n'est pas dépassé, mais qui en vit présentement, regarde l'avenir avec confiance. Il sait que son Dieu ne l'abandonnera pas. Il s'en remet à sa fidélité. Demain aussi lui appartient à Dieu. Et les épreuves et les difficultés inhérentes à toute existence humaine ne l'arracheront pas à sa bienveillance. Il écrit « Je suis en sécurité, tu ne m'abandonneras pas. » Mais tu m'enseigneras le chemin de la vie. Il y a en ta présence d'abondantes joies et à tes côtés un bonheur qui n'en finit pas. Et la mort. Et la mort, me direz-vous. Précisément, l'auteur du psaume 16 en parle. Mais fait significatif, il en parle peu. Il en parle peu tant il est rempli de la présence de Dieu. Il est comme habité de Dieu. Et dès lors, la pensée de la mort ne peut pas prendre en lui une place que Dieu occupe déjà. Certes, il n'ignore pas qu'il reste mortel. Et il évoque, mais brièvement, la fin, sa propre fin, pour dire que son Dieu ne le laissera pas même à cette heure. Mon cœur se réjouit, mon âme exulte, même ma chair demeure en sécurité, car ma vie, tu ne la livreras pas aux ténèbres et tu ne permettras pas que ton serviteur connaisse la corruption et le néant. Tant de liens se sont tissés au cours des années entre Dieu et lui que la mort même ne peut rien contre eux. À quoi pense exactement l'auteur de ce psaume ? Personne ne le sait. Et toutes sortes de suppositions ont été faites à ce sujet. Au fond, l'important n'est pas là, dans le comment qui appartient au secret de Dieu, mais dans le que, dans le fait, dans l'affirmation tranquille que quoi qu'il arrive, ce croyant se sait entre les mains de Dieu, d'où la paix qu'il habite et la joie qu'il anime. Il y a un bonheur sans fin auprès de toi, et c'est le chemin de la vie que tu m'enseignes. Avant l'apôtre Paul, qui lui se réfère, peut se référer à la destinée du Christ, ce psalmiste a l'intuition que rien, ni la vie présente, ni la mort à venir, ni le présent, ni le futur, ni aucune force au monde ne peut le séparer du Dieu dont il a mesuré la fidélité et l'amitié. Oh, certes, ce croyant n'a pas réponse à tout, et sa foi ne lui permet pas de tout savoir. Elle lui permet l'essentiel, c'est-à-dire de regarder un Dieu qui ne le décevra pas. La mort peut approcher, elle reste redoutable, mais Dieu est là, au sein même de l'inconnu et de l'anxiété, et en définitive, cela suffit. Cette remarque m'amène à vous faire part, pour terminer, d'une constatation que je fais souvent. Au cours des nombreux services funèbres auxquels mon ministère pastoral m'appelle à participer, j'y rencontre les gens les plus divers, les milieux les plus variés, dans un cadre parfois somptueux, avec une profusion de discours et de fleurs, ou parfois misérables. Mais il y a un point sur lequel il est difficile de tricher, et que l'on pressent, quelles que soient les circonstances extérieures de ces funérailles. Il existe des gens que la mort atteint, que le deuil frappe, mais qui ont avec Dieu une familiarité certaine. tandis que pour d'autres, Dieu n'est rien. Un inconnu, une force anonyme, une idée abstraite, tout au plus, un souvenir d'enfance. Et ils ne savent pas comment se situer alors que la mort leur rappelle leurs limites, leur fragilité, ou pour le dire avec l'Ecclésiaste, leur vanité. Les premiers, dans leur détresse, se découvrent soutenus par Dieu. Dans leur chagrin, ils restent habités par celui qui est depuis longtemps associé à leur existence. Sa parole les rejoint et les redresse. Ils savent, même à cette heure, en qui ils mettent leur espérance. Les seconds qui n'ont guère l'habitude de la prière, de la Bible, de l'Église et de ses ministres, ne savent trop comment se comporter. Leur gêne est évident, bien qu'ils essayent de le masquer. Et plus encore, on devine parfois, chez eux, ou dans l'existence de celui qui n'est plus, comme une espèce de vide qui se creuse, de vide qui se découvre, de vide que rien ne vient combler. Dans cette existence, il n'y a rien parce qu'au fond, il n'y a jamais rien eu. Malgré peut-être les réussites et le brio, malgré les apparences sociales qui peuvent tromper un temps, malgré, semble-t-il, des jours bien remplis, de l'argent amassé, des honneurs récoltés, il y a ce vide, cette vanité dont parle l'Ecclésiaste. Et ça, on le sent. Et personne n'arrive à le masquer. La mort jette souvent sur nos vies une lumière crue. Et Dieu n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a des années qu'il n'était pas notre invité. Il n'apparaît pas comme cela au dernier moment. On ne le siffle pas comme un chien. Dieu, c'est comme un ami. Il demande du temps. L'amitié, elle se cultive. Elle s'entretient. Elle est exigeante. L'amitié ne s'improvise pas. Elle ne s'invente pas quand on en a besoin. In extremis. L'auteur du psaume 16 est un vieil habitué de Dieu et cela explique sa paix et sa joie. Il est temps d'y penser et d'accueillir Dieu comme un ami dans notre existence journalière et non pas seulement lors de nos ultimes instants. C'est ainsi que notre méditation durant ces trois dimanches sur la mort et ses problèmes à la lumière de l'Ancien Testament débouche sur la recommandation de prendre bien soin de notre vie. C'est finalement non pas la mort qui est décisive, mais la manière dont nous vivons nos jours. Ce n'est pas notre dernier soupir qui compte, comme on l'a cru parfois, c'est ce qui nous anime quotidiennement. Il s'agit d'être habité par Dieu et par lui d'être conduit vers les autres. Pour bien se préparer à la mort, c'est l'amitié de Dieu que nous avons à découvrir dès maintenant pour qu'elle nous accompagne chaque jour. Amen.
Thank you.
m'enseigneras le chemin de la vie, que de joie on goûte en ta présence. Allez en paix, que Dieu fasse route avec vous, qu'il renouvelle vos forces et vous comble de joie. Amen.